Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël, positivement ravi de vous retrouver pour deux heures d'histoire décomplexée et rieuse, à l'image de mon facétieux camarade de jeu qui lui aussi est très content d'être là.
Ah non.
Ah si Stéphane, vous êtes hyper content, on va passer deux heures ensemble à la rencontre de trois personnages de l'histoire que tout sépare a priori mais qui ont en fait un point commun, c'est génial, vous êtes forcément enthousiaste.
Ben non.
Vous boudez ?
Non Mathieu. J'essaye juste de vous expliquer le point commun de nos trois héros du jour. C'est ceux qui ont dit non. Ils ont dit non et ils ont eu raison de dire non. C'est le thème du jour. Je vous parlerai de Victor Hugo et de Rosa Parks. Quant à vous, Mathieu, vous brosserez le portrait de notre troisième personnage du jour, un peu plus contemporain, plus vivant surtout.
Oui, très vivant. Alors, vous nous parlerez de la génération non-non. J'évoquerai pour ma part la génération non-non, à travers le destin surprenant de Diam. Génération non-non.
Vous l'avez compris, chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on retrace le destin des grands noms de l'histoire, toute l'histoire. À la question, avez-vous toujours des choses surprenantes à nous apprendre ? Nos chroniqueurs ont tous en cœur répondu un grand « oui », quitte à aller à l'encontre de notre émission du jour. Elle s'intéresse à celles et ceux qui disent souvent « oui » quand il s'agit de finir dans un lit, mais pas uniquement. Clémentine Portier-Kaltenbach nous dévoile les petits secrets des grands noms de l'histoire. Bonjour Clémentine.
Bonjour messieurs. Eh bien aujourd'hui, je suis restée dans la thématique. Et oui, dans certains contextes, on peut dire non. C'est même parfois recommandé. Cela n'interdit pas de rester poli. Or, c'est précisément son insolence et son impolitesse qui valurent à Simon Boubé de devenir en 1881 le premier citoyen français à subir une condamnation pour injure au chef de l'État. Mathieu, s'il vous prenait l'envie de traiter notre président de la République de cornichon ou d'amiral de bateau Lavoir,
j'adore les cornichons.
Alors, où cela vous mènerait-il à votre avis ? En prison ou en prime time sur un plateau télé ? Ben, réponse tout à l'heure.
Très bien. David Castello-Lopez, oui ou non pour vous ? Ce n'est pas la question. Vous cherchez à tout savoir sur les origines, souvent étonnantes, d'un objet de notre quotidien, d'une invention, d'une pratique. Aujourd'hui, David ?
Alors aujourd'hui, ce qu'en anglais on appelle le CPR et en français le RCR. Est-ce que vous avez une petite idée ?
Un ancien parti politique ?
Non, ça veut dire cardiopulmonary resuscitation en anglais, réanimation cardio-respiratoire en français. Depuis quand est-ce qu'on fait le bout à bout, le bouche à bouche et qu'on fait le petit
massage
truc,
cardiaque,
le massage cardiaque suivi du bouche à bouche, voilà.
C'est l'un avant l'autre ?
C'est concomitant.
Voilà. Super. Lui ne dit jamais non quand il reste du rab à la cantine. Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne bouffe. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Olivier ?
Eh bien, un incontournable de l'apéro. Et là, je sais que vous n'allez pas dire non non plus. Vous savez, ces petites rondelles de pommes de terre qui croustillent et qui sont aromatisées parfois. Les chips, d'où viennent-elles ? Leur histoire et puis leur recette.
Oui, chips avec un peu de truffe pour Stéphane, s'il vous plaît, par-dessus. Enfin, Stéphane, vos compétences historiques ne sauraient évidemment être remises en question. Votre capacité à répondre à la volée à chaque question que je vous pose, même les plus complexes et bluffantes. Qui c'est Henri VII en plus ?
C'est le père de Henri VIII.
Mais pour vérifier vos connaissances et en même temps tester les nôtres, je vous mettrai à l'épreuve de Bern to be alive, ce quiz sans pitié qui érode jour après jour l'image d'un Bern incollable.
C'est pas vrai,
les
ça s'améliore.
Ça s'améliore, c'est vrai. Les présentations sont faites, les dés sont jetés. Historiquement vôtre, c'est parti.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Deux heures pour faire le plein de bonne humeur et de bonnes infos pour épater vos proches.
Oui Stéphane, et quoi de mieux pour vous raconter l'histoire de France qu'un tandem luxembourgeois-helvète complété par un portugais ?
José Maria da Silva Paranhos Júnior Barão do Rio Branco.
Il n'y a rien de mieux. David Castello-Lopez. Chaque jour, vous nous faites découvrir, outre vos origines, les origines d'un objet ou d'une pratique. Aujourd'hui, le bouche-à-bouche.
Alors, si vous voulez vraiment prononcer mon nom correctement, c'est David Castello-Lopez. Voilà.
Castello-Lopez.
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 Parce que les Portugais,
ils aiment ramasser.
Ils ont
des noms tellement longs, voilà, qu'il faut bien les ramasser.
Non, c'est au Brésil. Au Brésil, on prononce toutes les
oui,
les,
beaucoup plus.
Et là, vous n'êtes pas brésilien. Vous êtes portugais.
Non. Voilà, c'est moins cool comme,
c'est bien
comme nationalité. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu votre enfance, Stéphane, Mathieu. Mais moi, j'ai passé toute la mienne à me dire, j'aimerais vraiment énormément embrasser une fille.
Depuis le temps, vous avez réussi quand même.
On va y venir. Ça a l'air de le hanter encore aujourd'hui.
Et oui, non, parce que en fait, voilà, j'ai passé mon enfance à me dire, j'aimerais vraiment énormément embrasser une fille, parce que le problème, c'est qu'à cette époque, je m'étais pas encore incarné dans cette forme définitive que vous avez sous les yeux, cet incroyable équilibre des proportions qui m'a valu à Lisbonne le sobriquet de petit Apollon du Tage. Non, quand j'étais enfant, je vous rappelle qu'on m'appelait David Castello l'obèse, donc de bisous pour moi. Et évidemment, quand les jours sans bisous se transforment en mois puis en années, on laisse aller sa pensée aux circonstances exceptionnelles qui pourraient nous donner la possibilité d'en faire. Et puis un jour à l'école, on nous a expliqué ce que c'était que le bouche à bouche. Et là, je me suis rendu compte que j'étais pas seul dans mes pensées coupables, parce que l'ensemble de la classe a gloussé, fille comme garçon, c'était le bouche à bouche.
On a tous vécu ce moment-là.
Voilà. Mais quand je préparais cette chronique, je me suis dit que ce gloussement, c'était quand même complètement insensé. Non, parce que faut voir quand même, quand on doit faire du bouche à bouche à quelqu'un, c'est que cette personne est en train de mourir. Je veux dire, à moins d'être un psychopathe de l'enfer, c'est vraiment pas une situation où on se dit « Ah super, ça va être un peu comme faire des bisous ». Sans compter qu'il y a quand même un gros problème de consentement. Et pourtant les enfants, en tout cas moi, ceux que je fréquentais alors, et moi, eh ben, on trouvait l'idée super. Bon alors depuis, j'ai embrassé quelqu'un pour la première fois. Je dis depuis, mais c'était pendant le confinement, vous voyez, donc je vais pas non plus faire le malin. Mais je n'ai jamais fait de bouche à bouche, ce qui ne m'a pas empêché de m'intéresser à ses origines. Alors pendant longtemps, il y avait quand même une petite tendance des gens à ne pas vouloir ressusciter les morts. Pourquoi ? Eh bien entre autres parce que vouloir ressusciter les gens, c'était un peu faire genre on était Dieu, vous voyez. Et Dieu, vous le connaissez, il aime pas trop qu'on empiète sur sa fiche de poste. Mais bien sûr, tout ça a changé avec les Lumières. Un peu partout en Europe, au milieu du XVIIIe siècle, il y a des sociétés savantes qui se constituent et qui commencent à réfléchir, entre mille autres choses, à comment faire pour que les gens qui ont l'air morts redeviennent vivants. Et parmi les choses qu'elles recommandent, ces sociétés, pour la première fois, il y a le fait de souffler dans la bouche des gens. La première mention de cette technique, elle date de 1740 à Paris. Alors c'est une très bonne intuition de souffler dans la bouche des gens pour les ressusciter, mais malheureusement, comme souvent à l'époque dans la médecine, les bonnes intuitions cohabitent avec de très très mauvaises intuitions. Et l'une d'entre elles, c'était que en plus de recommander de faire le bouche à bouche aux gens, certains recommandaient aussi de mettre de la fumée de tabac dans leur anus. Concomitamment. Et il y a des récits du XVIIIe siècle que j'ai lus pour faire cette chronique et qui disent en gros, vite, 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 il a l'air mort, il faut lui mettre de la fumée dans le cul. Vous voyez, c'est pas complètement n'importe quoi. C'est qu'on savait que le tabac c'était un excitant et on se disait, il faut exciter le corps de cette personne inerte pour les réanimer. Mais autant vous dire que ça ne marchait pas. Alors petit à petit, on a testé d'autres choses comme le massage cardiaque à cœur ouvert.
Ah, ça c'est intéressant.
Voilà,
ouais.
Ça se faisait.
Ça a déjà marché une fois, ça ?
Ça marchait un peu, oui. Ça se faisait à deux, hein. On ouvrait la poitrine des gens et à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui écartait les côtes de la personne et l'autre qui faisait comme ça avec sa main, avec le cœur, comme quand on prend la tension, vous voyez, comme ça. Ça marchait pas si mal, hein, mais on a pris quand même pas mal de temps à comprendre que ça marchait aussi bien sans ouvrir la poitrine au scalpel, même si, bien sûr, c'est beaucoup moins fun. Tout ça jusqu'à ce qu'arrivent dans les années 50 deux médecins américains, Peter Safar et James Elam.
Encore des Américains. Toujours des Américains qui débarquent dans votre chronique.
Safar, c'est un Autrichien. C'est encore un Autrichien qui a migré aux États-Unis, donc je vous épargne son histoire.
Oui, j'imagine, l'histoire de la Schwarzenegger.
Voilà. Mais tous les deux, ils ont démontré que la méthode de ressuscitation la plus efficace, c'était celle qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est-à-dire d'alterner le bouche à bouche avec des pressions sur la poitrine. Il n'y a pas beaucoup de chiffres sur cette méthode, mais d'après les statistiques américaines, en gros, ça marche une fois sur deux, ce qui est quand même vachement mieux que zéro fois sur deux. Vous voyez. Dernière petite chose, si vous demandez à quelle vitesse il faut appuyer sur la poitrine des gens, c'est minimum 100 fois par minute. Et pour s'en rappeler, il suffit de chanter dans sa tête la chanson Stayin' Alive et d'appuyer sur chaque temps. Vous voyez ? Voilà.
Je connais cette légende avec Stayin' Alive, ça marche aussi sur Tata Yo-Yo, hein. On peut être français, hein. c'est le même rythme.
Tout à fait, c'est entre 100 et 120 battements par minute, ça c'est 104, ça c'est parfait. Donc, voilà.
Et si vous n'avez pas la musique, comment vous faites ?
Vous l'avez dans la tête, bien sûr. Vous connaissez Tata Yo-Yo au moins. Voilà, vous pensez Tata Yo-Yo et puis vous m'appuyez sur le. Mais doucement quand même. Merci beaucoup, David
Kastelop.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
2 heures pour découvrir 3 personnages historiques qui n'auraient jamais dû se croiser.
Et pourtant, Stéphane, cet après-midi, Victor Hugo, Rosa Parks et Diam se retrouvent réunis car ils ont tous les trois eu le courage de dire non.
Non, 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 non.
Et ils ont eu raison. On commence non pas par Camélia Jordana, mais par Victor Hugo qui a dit non à la peine de mort.
Historiquement vôtre. Le récit.
Le 17 septembre 1981, à l'Assemblée nationale, Robert Badinter, alors ministre de la Justice et garde des Sceaux, tient un discours qui fera date dans l'histoire de France. Il plaide et obtient l'abolition de la peine de mort en se plaçant sous l'égide d'un autre fervent défenseur de cette cause, bien des années plus tôt, l'écrivain Victor Hugo.
Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur, triomphant de la raison et de l'humanité.
Robert Badinter se décrit depuis toujours comme un hugolâtre. Il aime et admire Hugo pour son œuvre, mais aussi, je le cite, pour son cœur sensible et généreux. Oui, Victor Hugo, ce monument de la littérature française qui a notamment écrit Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Les Orientales, Les Contemplations, des romans qui ne s'adressent pas seulement aux intellectuels aussi. Hugo, un homme qui, comme Badinter, avait la peine de mort en horreur. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Outre les chefs-d'œuvre de la littérature qu'il a laissés derrière lui, Victor Hugo est également resté dans les mémoires pour ses combats politiques, et notamment donc pour son combat anti-peine de mort, cette barbarie inhumaine, ce meurtre légal comme il l'appelait. Et dans cette lutte, tous les moyens étaient bons. Lettres, articles, discours, préfaces, dessins, interventions publiques. Tout au long de sa vie, Hugo a aussi multiplié les interventions auprès de chefs d'État pour demander la grâce de condamner à mort. En 1839, par exemple, il parvient à faire gracier Armand Barbès, condamné à mort pour tentative de coup d'État. Dans ses romans, Victor Hugo défend les exclus, ceux qui sont en marge de la société, les pauvres, les hors-la-loi et même les monstres au sens propre, comme Quasimodo. Et ce profond dégoût pour la peine de mort, on le retrouve dans plusieurs de ses ouvrages, notamment dans « Le dernier jour d'un condamné », un livre qu'il publie très jeune, en 1829, alors qu'il n'a que 27 ans. Dans cet ouvrage, Victor Hugo place le lecteur dans la peau d'un condamné. On ne connaît ni son crime, ni son nom, ni son passé. Il est donc facile pour le lecteur de s'identifier à cet homme et de comprendre toute la révolte que cette mort inéluctable est programmée inspire à Victor Hugo. Comment ne pas parler aussi de Notre-Dame de Paris, dans lequel deux des personnages principaux subissent un supplice. Quasimodo y est condamné au pilori en place de grève, et Esmeralda finit pendue au gibet de Montfaucon, qui a vu défiler les pires bourreaux de l'histoire de Paris. Ou Claude Gueux parut en 1834, l'histoire en partie vraie d'un homme guillotiné, poussé au crime par la misère. On peut aussi remonter très tôt dans son œuvre. Dans « Hans d'Islande », roman qu'il a écrit à 18 ans, il parle déjà de meurtre judiciaire. Car cet engagement en faveur de ce qu'il nomme l'inviolabilité de la vie humaine remonte à loin. Il fait écho à des traumatismes qu'il a vécus dans sa jeunesse. À 16 ans, sur la place du Palais de Justice à Paris, Victor Hugo voit un bourreau marquer au fer rouge l'épaule d'une jeune femme. À ce sujet, il écrit « J'ai encore dans l'oreille, après plus de 40 ans, et j'aurai toujours dans l'âme l'épouvantable cri de la suppliciée. C'était une voleuse. Pour moi, ce fut une martyre. Je sortis de là déterminé à combattre à jamais les mauvaises actions de la loi. Et ce ne sont là que quelques douloureux exemples de ces expériences qui le marquent à jamais. Dans la première moitié du XIXe siècle, en France, sous la Première République, l'Empire, puis la Restauration, les exécutions sont menées courantes. Au moment de la publication du dernier jour d'un condamné dans les années 1830, il y avait en France environ 75 exécutions par an. À cette époque, la peine capitale, pour raison politique, fait déjà débat dans le pays, un débat houleux. Mais la peine de mort, pour raison criminelle, elle, est encore considérée comme essentielle pour réduire la criminalité et notamment pour protéger la monarchie. Victor Hugo est clairement en avance sur son temps.
C'est bien pour ça d'ailleurs que Victor Hugo était un fervent défenseur de la République, Stéphane.
C'est drôle que vous disiez cela, Mathieu.
Pourquoi ?
En êtes-vous vraiment certain ?
À côté de vous, je ne suis désormais plus certain de rien.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il a gravé son nom à jamais dans l'histoire de la littérature, mais il a aussi associé son nom à un nom, N-O-N, dans son combat contre la peine de mort. On parle cet après-midi de Victor Hugo. Et Stéphane, vous n'allez quand même pas me dire que ce farouche républicain était royaliste.
Ben si, Mathieu, je vous le dis. Victor Hugo fut longtemps royaliste, et ce, jusqu'à la Deuxième République en 1848. Mais comment pouvait-il être royaliste et abolitionniste ? Ce qui anime Victor Hugo, selon Robert Badinter, c'est la passion de la justice. C'est cette passion qui donne une cohérence à sa destinée politique. Au cours de sa vie, il faut bien le rappeler, Hugo est passé de royaliste à républicain et entre-temps, il a aussi été bonapartiste et puis orléaniste.
Que n'a-t-il pas été, Stéphane ?
On l'a vu, cette passion de la justice irrigue ses écrits, mais Victor Hugo l'a aussi incarné en politique. En 1848, fraîchement député à l'Assemblée constituante de la Deuxième République, Hugo y défend, près de 20 ans après l'apparition de son roman réquisitoire « Le dernier jour d'un condamné », des amendements en faveur de l'abolition totale de la peine de mort. La même année, le gouvernement provisoire de la Seconde République abolit par décret la peine de mort, mais pour motif politique uniquement. Après le coup d'État du 2 décembre 1851, l'acte par lequel Napoléon III conserve le pouvoir par la force, Victor Hugo, qui s'est violemment opposé à celui qu'il nomme Napoléon le Petit, du titre d'un pamphlet qu'il publie une fois parti en exil, envoyé en exil, Hugo reste éloigné du territoire français pendant près de 19 ans, jusqu'à la chute du Second Empire et la proclamation de la République le 4 septembre 1870. De retour en France, le voilà sénateur de cette Troisième République. Et Victor Hugo n'abandonne pas et continue même le combat. Il défend notamment une proposition de loi pour l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. Mais encore une fois, ce sera un échec. Si Victor Hugo échoue dans ce combat, il en remportera un autre, celui pour l'amnistie des communards. Ses efforts pour défendre les insurgés de la Commune de Paris, des ouvriers pour la plupart, entrent dans la même logique humaine et sociale que son combat contre la peine de mort. Une logique de défense des pauvres et des opprimés, eux qui représentent la majorité des condamnés à mort. Passion pour la justice donc, mais aussi passion pour la justice sociale. Pour lui d'ailleurs, tout cela était lié. Ce que Hugo avait véritablement à cœur, c'était, je me permets de le citer, d'introduire dans ce qu'on appelle la politique la question morale et la question humaine.
Europe 1, historiquement vôtre.
Des questions, nous en avons à poser à la suite de ce récit parfaitement clair sur Victor Hugo, l'homme, l'écrivain, le député, le sénateur qui a dit non à la peine de mort. Nous sommes avec Jean-Marc Ovas, le grand spécialiste français de Victor Hugo. On n'a pas hésité, on a pris le meilleur, Stéphane.
Ah, vous avez eu raison. Bonjour Jean-Marc Ovas. Vous êtes professeur de littérature française à la Sorbonne et vous avez notamment publié une biographie monumentale de Victor Hugo en 2 tomes. Avant l'exil, 1802-1851, et pendant l'exil, 1851-1864, paru chez Fayard. Que ce soit avant ou pendant l'exil de Victor Hugo, une chose ne change pas, c'est son combat contre la peine de mort. Il est toujours là, c'est d'ailleurs, on peut le dire, hein, l'un des grands combats de sa vie. De ce point de vue-là, est-ce qu'on peut dire que Victor Hugo était en avance sur son temps ?
Oui, il était en avance sur son temps, certainement, mais pas complètement non plus, puisqu'il y avait un mouvement abolitionniste qui existait depuis le 18e siècle, fin 18e. La grosse différence, c'est que comme souvent dans sa vie, il se saisit de ce combat et il le magnifie par son génie littéraire, je crois.
Mais ce qui est drôle, c'est que Victor Hugo reste, dans l'esprit des Français, évidemment, un écrivain, un poète. Mais on parle peu du Victor Hugo politique, de celui qui était sédateur, par exemple, de...
Oui, pourtant, il a fait toutes les assemblées. Il a été d'abord pair de France, oui. Il a été ensuite député, donc il a fait les deux chambres, grand député de la Deuxième République, puis encore député après l'exil, et puis enfin sénateur. Donc on peut dire qu'il a eu une longue carrière politique et une importante carrière politique. On le cite très souvent, on cite des extraits de ses discours politiques qui sont assez remarquables sur tous les sujets. Et on peut très bien en extraire des passages entiers qui semblent s'adapter parfaitement aujourd'hui. C'est assez...
Vous donnez des idées à nos parlementaires qui se remontent d'inspiration.
Ils le font,
Hugo.
Ils le font souvent, bien sûr.
Pour un biographe, c'est un travail infini que de s'intéresser à Victor Hugo. Vous dites vous-même qu'il faudrait une vingtaine d'années pour réussir à lire toute l'œuvre de Hugo avec sa critique, tant son œuvre est prolifique. Vous en êtes à combien d'années, vous ?
Oh, un bon quart de siècle, hein. Donc ça va, j'ai passé le cap des 20 ans. C'est un auteur qui a traversé le siècle, qui a vécu longtemps et qui a énormément écrit, donc on ne s'ennuie jamais avec lui.
Sans compter qu'il était très bon dessinateur, décorateur.
Bien sûr.
Il suffit de voir ses dessins qui sont exposés. Enfin, c'est un génie.
Et puis on avait parlé de Victor Hugo amant aussi, visiblement. Il aimait aussi la bagatelle, il avait du temps aussi pour ça, il avait du temps pour tout.
Mais Est-ce qu'on peut dire, Jean-Marc Ovas, que c'est une vie de combat et qu'au cœur de son combat, il y a à la fois la passion pour la justice et puis cette question morale et humaine qui est au cœur de son œuvre.
Non seulement on peut le dire, mais il l'a dit lui-même dans un très beau poème de Châtiment qui commence ainsi « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». C'est un vers assez célèbre, assez connu. « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un grand dessein remplit l'âme et le front », etc. C'est un poème magnifique qui dit bien ce qu'il a maintenu en vie, puisqu'il a eu une vie tragique. Vous parlez de la bagatelle, mais il y a quand même aussi une dimension extrêmement tragique dans son œuvre. Il le dit, il écrit aussi lui-même, la vie ayant été sombre et tragique, en somme, une vie tragique. Qu'est-ce qu'il a maintenu en vie? C'est entre autres la lutte et le combat, la dimension de lutter pour l'humanité. Ça, c'est certainement son premier moteur. Oui.
On a dit, Stéphane l'a dit dans le récit, il a été royaliste, bonapartiste, républicain. C'est un peu l'art de retourner sa veste ou pas du tout? Il y a une cohérence dans Victor Hugo, vous qui le connaissez par cœur.
Non, il y a une cohérence parce que c'est une évolution lente et régulière. Il a été royaliste parce qu'il a été éduqué. Il le raconte souvent, sa mère l'a éduqué dans un royalisme ultra au début, donc vraiment très très royaliste. Ensuite, royalisme plus libéral. Ensuite, il a été séduit par le bonapartisme libéral. Et puis,
il a évolué, mais toujours dans le même sens.
Toujours dans le même sens, jusqu'à la République.
La prise de pouvoir par Napoléon III, il n'a pas supporté. Badinguet, Napoléon le Petit, il a été très violent contre...
Il a été très violent, donc il est devenu vraiment républicain en 1949. Et au moment du coup d'État, là, c'était quand Louis-Napoléon Bonaparte a franchi le Rubicon, là, il s'est opposé définitivement à lui et il a fini par incarner la République.
En tout cas, ce que vous dites est une invitation d'abord à relire Victor Hugo. Et surtout, je vous recommande la lecture de votre ouvrage en deux tomes, Avant l'exil et Pendant l'exil. C'est paru chez Fayard, votre biographie de Victor Hugo. Merci Jean-Marc Ovas d'avoir été avec nous. C'est un privilège que nous apprécions.
Merci
à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ils ont dit non. Ils ont eu raison de dire non. C'est le thème de ce numéro d'Historiquement vôtre.
En revanche, elle, Stéphane, c'est une femme à qui, à mon avis, il ne faut pas s'amuser à dire non. Surtout quand elle a enfilé sa nuisette et qu'elle nous lance...
Alors ça vous émoustille ?
Clémentine Portier-Kaltenbach, chaque jour vous nous faites pénétrer dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, vous nous racontez qu'à une époque, il ne faisait pas bon s'en prendre au président.
Exactement. Je ne vous emmène pas dans un lupanar, mais potentiellement en prison. En prison avec Simon Boubé, qui, en 1881, dans le journal Le Clairon, est l'auteur d'une série intitulée « Lettres de mon chien au président de la République ». Alors, ces lettres adressées au président Jules Grévy affirment que celui-ci mériterait largement d'être pendu et fessé en place publique. Et il poursuit à propos du président, c'est un voyou, profanateur, un goujat iconoclaste que l'Élysée a volé à la police correctionnelle. Boubé donc va payer ce chapelet d'injures quand même de 3 mois de prison.
Ah, ferme.
3 mois de prison ferme et 1500 francs d'amende à l'époque, ça fait à peu près dans les 5000 euros aujourd'hui. C'est quand même pas rien pour avoir donc... il a quand même traité le président de la République de goujat, voyou, profanateur, etc. Une quinzaine d'années après Simon Boubé, en 1894, un autre journaliste, Albert Goulet, lui va faire 2 mois de prison pour avoir suggéré dans un article que le président de la République, à l'époque c'était Casimir Perier, était constipé. 2 mois de prison ferme.
Pour une constipation.
Une constipation.
Alors messieurs, aujourd'hui, prenez l'envie de traiter de nom d'oiseau notre président de la République, ce qu'à Dieu ne plaise.
Est-ce que certains font quand même toutes
que
les
certains
journées
font quand même, mais sachez que le délit d'offense au chef de l'État, créé en 1881 et qui avait valu à Boubé et Goulet, que je viens de vous citer, d'aller en prison, a été abrogé il y a 7 ans, donc en 2013, par le Parlement. Donc jusqu'en 2013, ceux qui enfreignaient cette loi pouvaient se faire infliger une peine d'amende allant jusqu'à 45 000 euros quand même. Là, on rigole
c'est
pas.
Monté, hein.
45 000 euros. Sous Vichy, évidemment, période noire de notre histoire.
Il ne fallait pas dire du mal du maréchal.
Alors, je ne dis pas du mal du maréchal parce que j'encourais jusqu'à 2 ans de prison.
Stéphane, votre pensée va être déformée.
2 ans de prison, Stéphane. Et dans les tout débuts de la Ve République, après l'indépendance de l'Algérie, il y a eu quelques délits d'offense contre le général de Gaulle, mais qui n'ont pas été assortis de peine de prison. Alors, la dernière condamnation pour offense au chef de l'État, relevant de cette loi de 1881, on la connaît tous, elle est assez récente. C'était en 2008 contre un certain Hervé Éon. Lors de sa visite au Salon de l'Agriculture, Nicolas Sarkozy, vous en souvenez, a eu un accrochage avec ce monsieur qui lui aurait dit quelque chose du genre « me touche pas, tu me salis ».
Oui.
À quoi Napoléon a répliqué «
Napoléon, me touche pas.
Casse-toi, pauvre con, mais bien sûr. Alors, Hervé et Léon, est-ce que vous savez à quoi il a
dit Napoléon?
Oui, elle a surnommé Nicolas. Elle va aller en prison.
Elle va finir en tôle.
Vous avez dit Napoléon à la place de Nicolas Sarkozy. À mon avis, il y a un lapsus, c'est quelque chose d'énorme.
C'est extraordinaire.
Mais vous connaissez l'histoire à Borbe-Limosa, en sortant de la messe, il y a un type qui dit à Chirac. Président Chirac et Bernadette qui sortent de la messe, et il y a un type qui dit connard! Et Chirac,
et moi, c'est
répond,
Jacques Chirac.
Moi,
oui.
C'est Chirac.
Ouais. Elle est très bonne. Oh, j'écouterai bien le replay parce qu'à mon avis, il faut que j'aille m'allonger chez un bon psy.
Je vous le ferai écouter demain.
J'ai Napoléon à la place de Nicolas Sarkozy, en tout cas notre ARV Eon, il a été condamné à 30 euros d'amende avec sursis. C'est quand même pas très grave. Mais cette condamnation a été jugée attentatoire à la liberté d'expression par la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est pour ça que la loi de 2013 sur l'offense au chef de l'État a été abolie, si vous voulez. Alors attention, la loi prévoit toujours la possibilité pour le président de saisir le parquet pour injure ou diffamation.
Ouais, mais quel président ferait ça?
Et personne ne le ferait. C'est 45 000 euros si vous le faites. Depuis 2013, évidemment, aucun de nos présidents ne l'a fait. Mais voyez, c'est subtil tout ça. C'est une affaire entre notre président et nous et qui relève de l'équilibre subtil que l'on cherche constamment à établir en démocratie entre la liberté d'expression des citoyens et leur respect pour les institutions. Chose que le philosophe Alain résuma magnifiquement en ces termes. Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l'obéissance, il assure l'ordre. Par la résistance, il assure la liberté. Donc vous pouvez traiter le président de la République de cornichon. Il vous en coûtera peut-être 45 000 euros. Et ça ne sera que justice. Voilà, c'était votre petite leçon de droit constitutionnel.
Merci, madame. On vous remercie.
Merci Clémentine, vous restez avec nous. Parce que Mathieu a besoin de vous pour le quiz.
Effectivement, c'est le moment où Clémentine devient l'instrument très consentant de mon sadisme pour tester, Stéphane, vos véritables connaissances historiques. Notre quiz arrive.
Cornichon, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
2 heures de détente, de bonne humeur, mais aussi de tension dramatique. Chaque après-midi vers 5h10, c'est la confrontation de deux cerveaux que tout oppose. Celui de notre historienne Clémentine Portier-Kaltenbach, qui turbine à toute vapeur, et celui, disons plus ramollo, de Stéphane Bern, cerveau qui a déjà montré maintes fois ses limites dans notre émission.
Quel événement a pu donner lieu à une minute de silence dans un collège parisien en janvier 96?
Le 11 novembre.
C'est l'heure de vérifier l'état de délabrement neuronal de Stéphane. Voici Bern to be alive, notre célèbre quiz. Stéphane, la première question est toujours pour vous. Si vous voulez faire une rime avec Louis XIV, c'est impossible. Vrai ou faux?
Oui,
Louis XIV.
Non, ça sera en tout cas bien difficile.
Je dirais impossible.
C'est faux, effectivement. On pouvait le faire rimer avec 94 ou 74, mais même Christophe Maé n'a pas osé.
Ouais.
On ne fait pas rimer Louis XIV.
Non.
Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Le 31 janvier 1977, c'était l'inauguration du Centre Pompidou. Eh bien, la couleur des fameux tubes ont une signification, vrai
ou faux?
Oui, tout
à fait.
Selon
la couleur, le bleu véhicule l'air, je crois que ça correspond à l'aération, le vert doit correspondre à l'eau, le rouge sans doute au chauffage, il y a vraiment une utilité liée aux couleurs.
Non seulement c'est vrai, mais j'ai envie de vous octroyer un point bonus, parce que excusez-moi, mais elle ne s'est pas contentée de répondre.
Oui, mais vous, c'est le principe des questions.
Les tuyaux bleus, c'est la clim, le vert, c'est l'eau, les jaunes, c'est l'électricité, les blancs, le refroidissement, et en rouge, les escaliers et les ascenseurs. Je dis, c'est pas une bonne réponse, c'est une très bonne réponse.
Merci.
De Clémentine Portier-Kaltenbach. Stéphane, essayez d'être un peu au niveau. Question numéro 3, c'est pour vous. Si elle avait vécu en France, elle avait aimé le rock, est-ce que Marilyn Monroe aurait pu écouter le premier disque de Johnny Hallyday?
Ça va se jouer à 6 mois près.
Ça se joue à quelques mois, mais je pense que oui.
Vous pensez que oui?
Oui, je pense que oui.
Et c'est une bonne réponse. Oui. Quel festival aujourd'hui? Oui. Le premier disque de Johnny est sorti en 1960. Marilyn Monroe est morte en 1962, la même année qu'est née Marianne James. Je ne sais pas si vous croyez en la réincarnation, mais c'est troublant. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Attention, si à Paris, Lara Fabian avait pris le métro avec sa maman en poussette, est-ce qu'elle aurait pu voir un poinçonneur? Mais là, vraiment, je me demande qui a eu l'idée de cette question-là.
Je pense que Lara Fabian, elle est quand même jeune, elle a une quarantaine d'années. Non, je pense qu'elle n'aurait pas
moi,
pu.
Moi, j'ai connu les poinçonneurs.
Moi, j'ai connu aussi. Elle n'aurait pas pu voir. Je pense qu'elle est trop jeune pour avoir
c'est
pu
faux.
Voir. Je pense que c'est faux.
Eh bien, figurez-vous qu'elle aurait pu. Et oui, elle est née en 1970. Le dernier poinçonneur, ce poinçonneur des Lilas, il a disparu en octobre 73. Et voilà, elle aurait pu lui dire qu'elle l'aimait aussi. Alors, est-ce qu'on est à égalité ou est-ce que quelqu'un
a un point de plus?
Vous avez gagné, Stéphane. Ah,
ça, c'est si on décrète. Cela
dit, j'ai eu un bonus pour Beaubourg.
Oh non, mais attendez,
moi, je pense. Je
égalité.
Pense,
égalité.
Je
égalité.
Pense, non. Oui, non, le point bonus a été validé en régie. Il a été validé parce qu'il y en a eu une double bonne réponse.
Sur les tuyaux.
Ah oui, mais j'ai eu un point bonus.
Il y avait un point supplémentaire pour les tuyaux.
Oui, mais elle s'est trompée dans la couleur des tuyaux.
Ah non, elle a eu au moins 3 tuyaux sur 4. C'est très bien.
Non, non, dis donc, je me suis trompée entre chauffage et ascenseur. Ah non, mais il est mesquin. Mais je découvre ça avec stupéfaction.
On envoie la dernière question. Question pour tous les deux, c'est une question de rapidité. 3 propositions. Le premier qui choisit la réponse empêche l'autre de la prendre, mais encore faut-il que ce soit la bonne. Chez les Mayas, comme chez les Incas, le Quetzal, un petit oiseau au plumage vert et bleu ciel, est le symbole de la liberté. Pourquoi ? 3 propositions. Parce que c'est un oiseau qui n'a jamais été observé en couple. Parce que c'est un oiseau qu'on ne peut pas mettre en cage. Ou parce que c'est un oiseau au chant particulier qui a inspiré le Pampa Cepeda, le chant de la liberté aztèque.
Ouais, on ne peut pas le mettre en cage.
Moi, je mettrais un parce qu'on ne l'observe pas en couple.
Eh bien, mesdames et messieurs, à la surprise générale de la France, c'est Stéphane Bern qui remporte le quiz. On ne peut pas mettre cet oiseau en cage. Pourquoi ?
Ah, parce qu'il veut pas, c'est tout.
Il
ne
sait pas.
Il veut pas. Il s'exprime comment ? Il bouge ses petites ailes.
Il répond au pif. Allez.
On n'arrive pas à l'attraper, quoi. C'est tout.
D'accord. Alors bon, c'était pas du tout la bonne réponse. Donc par hasard, Stéphane Bern remporte le quiz. On ne peut pas le mettre en cage, sinon il meurt.
Ben voilà.
Et sachez que le Pampa Cepeda, c'est pompe à vélo en indonésien. Ça ne veut rien. Ça n'a rien à voir avec la mayonnaise. Bravo quand même à Stéphane Bern qui l'emporte.
À l'insu
de son plein gré, il remporte le quiz.
Merci. 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
L'automne est là, fini l'été indien. Heureusement, chaque après-midi, Historiquement vôtre vous offre un shot de bonne humeur, supplément culture, grâce à l'éminemment tonique Stéphane Bern, qui attaque le mois d'octobre avec une de ses patates. Pas vrai, Stéphane?
Comment on sait qu'on a le coronavirus?
Bref, on est ravis de vous retrouver pour une deuxième heure d'histoire sans se la raconter. Non, vous êtes en pleine forme, Stéphane.
Mais absolument,
bien sûr.
Mais je trouve scandaleux. Chaque fois qu'on dit des choses hors micro, vous les gardez.
C'est pas hors micro, c'est juste hors antenne, mais vous êtes devant votre micro, donc je me permets de récupérer un petit peu.
Mais vous récupérez toutes les vieilleries qui passent?
Oui, je fais des dossiers pour plus tard, même beaucoup plus tard, ça peut servir. Aujourd'hui, notre thème du jour, ils ont dit non et ils ont eu raison. Côté grande figure décédée de l'histoire, on a évoqué le combat de Victor Hugo contre la peine de mort, mais Stéphane va maintenant nous parler de Rosa Parks.
Oui Mathieu, on se souvient tous de son fameux geste dans un bus, refuser de céder sa place à un blanc.
Ce qui était super comme geste. En revanche, ne jamais refuser de céder sa place à une personne âgée dans un bus. Moi, une fois, j'ai eu la flemme de bouger. Je peux vous dire que la personne âgée était très mécontente, elle m'a traité tous les noms.
Homosexuel, pervers, aliéné, alcoolique.
Je suis désolé Stéphane, je ne vous ai pas reconnu. La prochaine fois, je me lèverai.
Je ne suis pas une personne âgée, pas encore. Au programme de cette deuxième heure également, mon cher Mathieu, des mots, rien que des mots, avec mon mot de la fin. Aujourd'hui, je vous dirai pourquoi on dit « à voile et vapeur ».
C'est bien choisi. On va parler bateau, probablement.
Oui, on va parler chips, surtout avec Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne bouffe et de la junk food. Bon, ça dépend des jours.
Oui. Le caviar, on n'en avait jamais vu la couleur, mais aujourd'hui, on aura peut-être un paquet de chips.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Sans elle, sans son geste fort et courageux il y a 65 ans dans un autobus de l'Alabama, Martin Luther King n'aurait peut-être pas fait un rêve.
Nadine Morano.
Non Stéphane, Rosa Parks, dont vous nous contez l'histoire cet après-midi.
Historiquement vôtre. Le récit.
Nous sommes le 1er décembre 1955 à Montgomery, en Alabama, dans le sud-est des États-Unis. Rosa Parks, couturière de 42 ans, chignon impeccable et lunettes de vue ovale, rentre chez elle en bus après une dure journée de travail. Elle est assise dans la partie centrale du bus. Parce qu'elle est une femme noire, Rosa Parks a le droit de s'asseoir dans cette section du bus, mais à une seule condition. Aucun blanc ne veuille s'y installer. Quelques arrêts plus loin, un homme blanc monte dans le bus et réclame une place. Alors, comme cela se faisait souvent, le chauffeur du bus demande au passager noir assis dans cette section de se lever. Rosa Parks refuse. Elle sait qu'elle risque gros. La prison, peut-être même une bavure policière. Mais elle dit non. Cet acte de bravoure, elle ne le sait évidemment pas encore, va participer au basculement de l'histoire du pays et sonner le glas de la ségrégation raciale aux États-Unis. Il va faire d'elle une icône, la mère, comme on la surnomme, du mouvement afro-américain pour les droits civiques. Pour bien comprendre la portée de cet acte, il faut le replacer dans son contexte. En 1955, presque un siècle après l'abolition de l'esclavage par Abraham Lincoln en 1865, le système ségrégationniste instauré au lendemain de la guerre de Sécession est bel et bien encore vivant dans les ex-États confédérés du sud des États-Unis. Les lois Jim Crow, votées au tournant du XXe siècle, accordent à la violence raciale un cadre légal. Elles organisent la séparation sociale entre les Noirs et les Blancs, dans les transports, mais aussi dans les lieux publics, les écoles, les lieux de résidence, les hôpitaux, les orphelinats. Mais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le mécontentement des populations noires se fait de plus en plus visible. Au sein de la société américaine, une rupture est en train de s'opérer. Les politiques racistes des régimes totalitaires contre lesquels les forces alliées se sont battues durant la guerre ont mis en exergue l'inhumanité du système ségrégationniste américain. Près d'un million d'Afro-Américains ont été appelés sous les drapeaux. Tous se sont battus pour défendre le respect des droits humains. Comment dès lors continuer à accepter la situation chez eux ? C'est dans ce contexte de bouillonnement du militantisme afro-américain que Rosa Parks trouve, en 1955, le courage de dire non. Mais qui est cette Rosa Parks ? Une citoyenne lambda ? Pas vraiment. Contrairement à ce que l'on a pu dire sur elle, elle n'est pas simplement une femme fatiguée par sa journée de travail. Non, non, Rosa Parks est une militante politique engagée. Depuis 1943, elle est impliquée dans une association qui réclame l'émancipation des Noirs américains, la NAACP. Elle en est la secrétaire, une secrétaire qui répertorie les injustices commises à l'encontre des Noirs à Montgomery. Dans ses mémoires, elle écrit « Les gens ont toujours cru que je n'avais pas cédé ma place parce que j'étais fatiguée. Ce n'est pas vrai. Je n'étais pas fatiguée physiquement. J'étais surtout fatiguée de devoir capituler. » Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle commet ce genre d'acte de rébellion. 12 ans auparavant, elle s'est déjà fait expulser d'un bus, et par le même chauffeur qu'en 1955. Ayant payé son ticket à l'avant du bus, elle avait refusé de sortir pour remonter par l'arrière, comme cela était exigé des Noirs. Ce n'est pas la seule, ni la première, à violer intentionnellement ces règles. Alors, pourquoi son refus de 1955 a-t-il fait autant de bruit ? Eh bien, c'est parce qu'un mouvement de soutien va s'organiser autour de Rosa Parks, un mouvement qui n'est pas conduit par n'importe qui.
Europe 1. 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Elle a dit non, et on peut dire qu'elle a eu raison. Mais Rosa Parks, vous nous le disiez, Stéphane a reçu un soutien important qui a donné à son acte un puissant écho dans la société américaine.
Oui Mathieu, ce soutien, c'est celui d'un homme, un pasteur. Martin Luther King, mondialement connu aujourd'hui. Mais à cette époque, en 1955, personne ne le connaît. C'est un simple pasteur de 26 ans. C'est cette affaire, ce mouvement de soutien à Rosa Parks et l'impact médiatique qu'il va avoir qui va le lancer sur la trajectoire qu'on lui connaît aujourd'hui. Et c'est même à ce moment-là que va naître, symboliquement, le mouvement pour les droits civiques. En effet, grâce au mouvement de soutien qui s'organise autour de Rosa Parks, sa condamnation par la justice du comté de Montgomery va être largement médiatisée. Martin Luther King et les membres de la NAACP organisent une campagne de boycott des bus du comté qui est largement suivie. Sous pression, la Cour suprême se voit obligée un an plus tard, en 1956, d'annuler les lois de ségrégation qui s'appliquent au transport dans le comté de Montgomery. La machine est lancée et elle ne va pas s'arrêter là. Avec ce boycott des bus, Martin Luther King inaugure ses fameuses actions non violentes, celles qui mèneront un peu moins de 10 ans plus tard à l'abrogation des lois Jim Crow et donc à la fin de la ségrégation aux États-Unis. Rosa Parks a joué un rôle crucial dans cette révolution et elle continuera de s'investir dans le mouvement d'émancipation des Noirs dans les décennies qui vont suivre jusqu'à sa mort en 2005. Et cela, malgré les nombreuses menaces dont elle sera l'objet. Des menaces qui l'ont obligé, elle et sa famille, à déménager plus au nord, à Detroit, en 1957.
Vous dites Detroit, vous êtes vraiment...
Les Américains disent Detroit.
Je sais Stéphane.
On peut dire Detroit.
Oui, mais on peut dire Detroit quand on est comme vous bilingue. et le souligner ainsi finement.
Son engagement a depuis valu à Rosa Parks de nombreuses reconnaissances aux États-Unis. Elle a reçu, notamment des mains du président Bill Clinton en 1996, la plus haute distinction décernée par l'exécutif américain, la médaille présidentielle de la liberté. Plus récemment encore, en 2013, sa statue a été inaugurée par Barack Obama au Capitole, dans la galerie qui célèbre les personnages majeurs de l'histoire des États-Unis.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer de parler de Rosa Parks qui a dit non, nous avons contacté une invitée qui nous a tout de suite dit oui quand on lui a proposé de venir parler de celle qui a changé à jamais l'histoire des États-Unis. Bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour, oui, je vous ai dit oui avec plaisir.
C'est une chance pour nous, merci Nicole Bacharan. Vous êtes historienne, politologue, spécialiste des États-Unis, auteur des Noirs américains, des Champs de coton à la Maison Blanche, réédité, il faut le rappeler, en format de poche chez Tempus, c'est-à-dire chez Perrin. Depuis le lendemain de la guerre de sécession, les États-Unis du sud des États-Unis vivent sous le régime de la ségrégation. Bon, c'est une histoire qui vous touche naturellement particulièrement, Nicole Bacharan, parce que vous avez vécu dans les États du Sud pendant longtemps. Vous l'avez senti, ce reliquat de ségrégation?
Oui, c'est vrai. Vous avez totalement raison. Moi, j'étais une fille de la côte Est, comme on dit. Et puis, nous nous sommes installés à Houston, au Texas, dans les années 80, puis 90. Et c'est vrai que c'était très troublant de voir que les travaux les plus durs, finalement, les plus dangereux, étaient toujours pratiqués par les Noirs. Et que, au fond, les quartiers restaient encore très séparés. Il y avait des quartiers blancs, il y avait des quartiers noirs. Et dans les quartiers blancs, quand on voyait des noirs, c'était des ouvriers, c'était les nounous, mais c'était pas les habitants. Dans les écoles, c'était aussi pas mal ségrégué. Alors, ce qui était frappant aussi dans ces années-là, c'était que la fameuse classe moyenne noire, qui était minuscule à l'époque de Rosa Parks, elle existait vraiment dans les années 90. Mais la séparation, elle était encore très profonde.
Nicole, si Rosa Parks décide en pleine conscience de ne pas céder sa place dans le bus, c'est qu'en réalité, elle est déjà militante politique à ce moment-là, Stéphane l'a rappelé. Pourquoi elle a décidé de devenir militante? C'était quoi son rôle en tant que militante? C'est quoi son parcours avant l'épisode du bus à Rosa Parks?
Je crois qu'elle est née militante, ou alors ça a été déjà une petite fille militante. Et elle a assisté à beaucoup de choses. Déjà, elle allait à l'école à pied. Les enfants noirs n'avaient pas le droit de prendre le bus scolaire. L'école où elle allait, elle a été incendiée deux fois par le Ku Klux Klan. Elle a vu son grand-père qui montait la garde avec son fusil de chasse les soirs où le Ku Klux Klan menaçait de faire la tournée des quartiers noirs. Donc elle a vu son grand-père résister, elle a vu sa mère résister, et au fond c'est une petite fille qui résistait déjà.
Elle résistait, mais elle a rencontré son époux aussi, Raymond Parks, qui était lui-même militant de la NAACP, et qui était, au fond, ce couple aussi s'est formé dans la résistance, dans cette habitude de dire non.
Complètement, complètement. C'est vrai que Rosa et Raymond Parks étaient un couple militant. Ils ont milité toute leur vie commune. Il est mort avant elle. Elle a continué à militer par la suite. Et ils n'ont pas eu d'enfants. Mais ce militantisme pour l'égalité des droits, ça a été le centre de leur vie. Certes, ils travaillaient. Mais elle, au bout d'un certain temps, elle n'a plus travaillé que pour les organisations noires. À l'époque du boycott des autobus de Montgomery, elle était militante à temps partiel, si j'ose dire, puisque elle travaillait dans un magasin de couture. Et puis elle est devenue militante à plein temps. C'était un couple qui avait décidé de ne plus accepter cette situation d'infériorité et d'humiliation des Noirs.
Nicole Bacharan, pourquoi est-ce qu'on retient essentiellement le nom de Rosa Parks? Il y a eu d'autres, avant d'autres militantes, d'autres personnes qui ont violé intentionnellement les règles imposées aux Noirs. On pense à Joan Robinson. Vraiment, pourquoi est-ce qu'on retient Rosa Parks et que c'est internationalement connu comme ça?
Alors vous avez raison, ça n'est pas le fruit du hasard. Vous citez très justement Joan Robinson, je pense aussi à Claudette Colvin, qui a fait plus ou moins la même chose que Rosa Parks dans un autobus. Mais elle avait 15 ans. C'était une petite jeune fille. ce qui n'est pas répréhensible. Mais Rosa Parks était une femme d'âge mûr, très propre sur soi, tout à fait respectable et respectée, quelque chose vraiment de un petit peu une matrone, si j'ose dire. Et les organisations noires de Montgomery, elles cherchaient le cas parfait pour qu'il y ait un procès, puis un appel, puis que ça aille devant la Cour suprême, et pour là, demander non pas si Rosa Parks était gentille, méchante, innocente ou coupable, mais demander l'interdiction de la ségrégation dans les autobus de Montgomery. Donc il voulait avoir une plaignante impeccable, inattaquable. Vous savez comment sont les avocats américains quand il s'agit de démolir un plaignant ou une plaignante. Là, il fallait qu'elle soit absolument nickel, si j'ose dire.
Oui, absolument. Et il faut dire qu'il y a eu aussi Martin Luther King qui est entré dans la bataille.
Ça a aidé aussi.
Un dernier mot quand même, Nicole Bacharan. On voit que c'est la société blanche, la société noire aux États-Unis qui vivaient côte à côte. Ils sont nouveaux. On a l'impression que les deux sociétés sont face à face avec notamment des bavures policières, avec des débordements, des statues déboulonnées, etc.
Est-ce qu'ils ont vécu ensemble ou c'était illusoire en fait?
Ils ont vécu ensemble, ça s'est beaucoup amélioré. Je parlais de la classe moyenne noire, aujourd'hui c'est à peu près 2/3 de la communauté noire qui fait partie réellement de la classe moyenne. Mais il y a un tel reliquat qu'aujourd'hui vraiment ça fait froid dans le dos. On voit que les violences policières, ce sont d'abord les noirs qui en sont victimes, même si la violence elle est très forte aux États-Unis et pas seulement dans la police. On voit que les écoles, finalement, elles restent pas mal ségrégées. Et on voit que l'élection de Donald Trump et les militants de Donald Trump, pas juste l'électeur lambda, bien sûr, il y a un fond d'opposition raciste qui reste très profond. Donc c'est vrai que, malheureusement, le temps n'avance pas très vite quand il s'agit de se débarrasser d'une histoire aussi tragique que la ségrégation et l'esclavage.
En tout cas, merci beaucoup, Nicole Bacharan, d'avoir été en lien avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Les Noirs Américains, des champs de coton à la Maison Blanche, ainsi que votre dernier livre qui vient d'être réédité, First Ladies, Les Femmes à la conquête de la Maison Blanche, coécrit avec Dominique Simonet et paru chez Tempus. Merci beaucoup, Nicole.
Merci à vous.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ils ont eu le courage de dire non. C'est notre thème cet après-midi dans Historiquement Vôtre.
Fort, Stéphane.
Je vais vous dire non, vous aussi. Victor Hugo a dit non à la peine de mort. Rosa Parks a dit non à la ségrégation raciale. Et maintenant, vous, Mathieu, vous allez nous brosser le portrait d'une star qui, elle, un jour, a dit non à quelque chose de beaucoup plus surprenant.
Oui, surtout pour vous. Elle a dit non à la notoriété.
Oh non.
Bah si, Stéphane. La notoriété, graal ultime de beaucoup d'entre nous qui permet d'entrer en boîte plus facilement.
J'adore.
D'être surclassé en avion.
J'adore.
D'être invité dans les soirées les plus folles.
J'adore.
Voire même de côtoyer Bernard Montiel. Ah non, ça visiblement vous en foutez. Bref,
non,
elle a renoncé volontairement à tout ça. Je vous parle de celle qui un jour a dit non non à la notoriété. Voilà déjà plus de 10 ans que Diams a raccroché le micro, mais ceux qui étaient jeunes dans les années 2000 savent à quel point elle aura marqué le rap français. Alors Stéphane, bon, sachant qu'en 2003, votre recherche la plus fréquente sur Google était déjà prostate, premier signe, quand se faire examiner, il est normal que Diams, ça ne vous évoque pas grand-chose. Mais moi qui avais 20 ans, des rêves plein la tête et du Biactol plein la face, je peux vous dire que c'était quelque chose.
Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec.
Dès son deuxième album Brut de Femme en 2003, Diams impose le respect par son flow, ses textes, un baromètre assez simple. Hein. Quand dans une boîte de nuit non gay, tu vois 30 blacks chanter en chœur « Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec », tu comprends que t'as affaire à un tube qui va emporter tout sur son passage, y compris les vieux stéréotypes genrés. Diams, de son vrai nom Mélanie Georgiade, est un pur produit des années 80. Fan de Michael Jackson, c'est en assistant à un de ses concerts qu'elle décide qu'un jour, elle aussi, montera sur scène. Elle découvre ensuite le rap via NTM et Dr. Dre. Et alors qu'elle est en 3e au collège, elle commence à monter ses premiers groupes. Puis voilà qu'un jour, selon sa bio, alors qu'elle était en train de feuilleter le Larousse... C'est vrai, on n'en parle pas assez, on dit toujours les jeunes, ils zonent dans le quartier, ils jouent à la PlayStation. Non, souvent, dans leur temps libre, les jeunes feuillettent le Larousse. C'est donc en feuilletant le dico que Mélanie tombe sur la définition du mot « diamant ». J'apprends qu'un diamant ne peut être brisé que par un autre diamant. Je kiffe, déclarera-t-elle plus tard. Son nom de scène est trouvé. En 99, elle démarre pour de bon sa carrière dont le nom, elle dit d'abord non aux études, hein, sa passion c'est le rap, elle compte bien s'y consacrer pleinement. Alors, son premier album, Premier Mandat, est un peu comme celui de Macron, où il divise. Le second, Brut de Femme, met en revanche tout le monde d'accord, je vous l'ai dit. Sauf peut-être Marine Le Pen, que Diams ne porte pas dans son cœur et n'hésite pas à le chanter avec le fameux titre Stéphane, tous ensemble. J'emmerde. J'emmerde qui ?
Charles V.
Non, le Front National, Stéphane. C'est ça la chanson de Diams. Diams, c'est aussi ce douloureux coup de semonce pour tous les quêtards de France qui se trouvent soudain pointés du doigt avec la terrible chanson Confession Nocturne où, avec sa copine cocu Vita, elle confond un mari volage.
Ferme ta gueule, ton cire, regarde-toi dans le calcif, putain. Tu fais le miskin, mais tu viens me briser, mon ami. Oh.
Ça, je peux vous dire qu'il y a eu un avant et un après. Pendant 5 ans derrière ça, plus un mec maqué n'a bougé un testicule. Diams est alors au sommet, expression toute faite qui signifie en France à l'aube des années 2000, vendre autant d'albums que Johnny Hallyday et avoir sa statue de cire flippante au musée Grévin. Vous l'avez, vous, Stéphane, votre statue ?
Oui, et pourtant, je ne vends pas de disque.
C'est vrai. Et est-ce qu'elle est réussie ?
Oui, plutôt.
Elle est flippante ?
Enfin, elle est réussie pour l'époque où j'ai posé.
Vous lui dites que vous étiez...
J'ai un peu changé depuis.
Oh, vous avez un peu changé. Il ne la rectifie pas ?
Non, ça demande trop de travail.
En 2008, Mélanie fait une grosse dépression et décide d'arrêter la musique une première fois avant de revenir en 2009 pour un ultime album intitulé SOS. Après quoi, Diams devient Mélanie, se convertit à l'islam. Une conversion très commentée à l'époque dans la presse et pourtant beaucoup moins choquante que son autre conversion. Car si l'islamisation d'une rappeuse peut surprendre, voire inquiéter, que dire de sa Valérie d'amidosisation ? Valérie d'amidosisation, je cite le dictionnaire théologique des courants religieux et sectes minoritaires, phénomène qui consiste à plaquer une carrière de chanteuse engagée, prenant l'égalité homme-femme et le droit de celle-ci à disposer de son corps, pour fonder une entreprise de décoration d'intérieur. Et oui Stéphane, aujourd'hui, Diams n'emmerde plus le Front National, elle est architecte d'intérieur, elle ne peut plus rien contre la montée de la haine et des communautarismes, en revanche, elle peut vous faire une ravissante mezzanine en merisier du Liban qui déboîte.
J'adore.
Mais je savais qu'à un point de sa carrière, Diams allait faire quelque chose qui vous intéresse Stéphane. On y est. Aujourd'hui, Mélanie dit être une femme épanouie, elle regrette les polémiques autour de son voile et à ceux qui voudraient y voir une amputation de sa liberté de jadis, elle déclare au contraire « Je suis libérée de cette religion de l'avoir, je veux juste être et me nourrir spirituellement, je suis si désolé qu'on me voit prisonnière alors que au contraire mes chaînes se sont brisées. » Alors évidemment pour nous tous ces fans c'est dur. Diams qui devient décoratrice d'intérieur, c'est comme si Stéphane Bern devenait mécano chez Speedy. Un tel changement d'univers, on n'était peut-être pas prêt. D'ailleurs Stéphane, je crois que vous avez un message pour Mélanie ou plutôt pour Diams car vous aussi vous avez envie qu'elle remonte sur scène.
Wesh gros, c'est Stéphane Bern. J'ai posé un rap parce qu'il est temps que tu reviennes. Le rap sans toi, c'est comme la mer sans la houle. Nos tympans saignent à force d'écouter Jules.
Voilà, Diams, si tu nous écoutes, tu dois admettre. Là, le rap français vient à l'instant de toucher le fond. Seul toi peut nous sortir de là. Merci de revenir vite. En plus, Stéphane a encore 1300 m² à rénover dans l'aile sud de son manoir normand. Il y a du taf en déco aussi. Bref, reviens.
Bref, merci beaucoup Mathieu. Mais elle est vraiment architecte d'intérieur.
Mais bien sûr qu'elle est architecte d'intérieur. Et vous pouvez faire appel à elle.
Ah bon, très
Home
bien.
By Mel, ça s'appelle son truc.
Ah très bien, parfait.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre et hélas, les nouvelles sont mauvaises. Selon les audiences médiamétriques qui viennent de tomber, nous aurions perdu à cause de lui 124% sur les auditeurs âgés de 50 à 70 ans et suivant une cure détox en thalassothérapie à Cabourg avec menu imposé, eau de vichy, légumes vapeur, quenelle de tofu. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour, pas du tout. Non, au contraire, aujourd'hui, ils écoutent et ils rêvent, ils fantasment.
Vous les faites rêver, vous les faites saliver. Chaque jour, l'histoire, l'origine d'une recette.
Bah aujourd'hui, on va parler d'un produit que vous connaissez tous. Mmh. On en mange, je pense, à peu près tous. Alors,
trop.
À l'apéro, en pique-nique, je sais pas vous, devant la télé peut-être, par exemple, tranquillement.
Ça, c'est vraiment terrible de manger des chips devant la télé, c'est la totale.
Ce sont les chips. On en mange en moyenne 1 kilo chacun, ici, en France, par an et par personne.
Bah oui, un c'est kilo pas de chips,
ouais. Ah oui. Et alors, les chips, petite question d'ailleurs, question de genre, est-ce qu'on dit un chips ou une chips?
J'ai jamais su, il y a vraiment deux écoles.
D'ailleurs,
là,
on ne les met jamais au singulier.
On n'en mange jamais.
On n'en mange jamais un ou une. Seul. On mange des chips.
Alors évidemment, c'est un nom au départ masculin pluriel, mais qui ensuite, suivant les dictionnaires, était accepté comme masculin ou féminin. Vous pouvez dire les
deux.
On
peut dire ce qu'on veut.
Passe-moi une chips ou passe-moi un chips. Mais en général, on dit passe-moi les chips, effectivement.
Plutôt.
Alors des chips qui sont nés aux États-Unis, figurez-vous.
Oh bah ça, c'est étonnant, oui.
Et il y a une date très précise. C'est en 1853. Écoutez cette petite histoire amusante.
Qu'est-ce qui se passe ?
Un client qui est habitué d'un restaurant de Saratoga s'assied et commande une assiette de frites. le chef, qui s'appelle George Crum, s'exécute et lui apporte les frites. Le client n'est pas content, il trouve qu'elles sont trop grosses, il les renvoie. Deuxième tentative, il les trouve encore trop grosses. Alors le chef commence à s'énerver un peu, hein, et donc il prend sa mandoline et il taille les rondelles de pommes de terre les plus fines possibles. Il dit comme cette fois, il ne pourra pas me dire qu'elles sont trop grosses. Mmh. Et voilà qu'arrivent donc les chips, ça veut dire copeaux, hein, tout simplement en anglais. Le gars trouve ça superbe, même le chef goûte et se dit « Tiens, ça c'est vraiment bon ». Il en fait une spécialité de son restaurant. Il se met à les mettre dans des petits paniers comme ça pour aiguiser l'appétit de ses clients. Et ça rencontre un véritable succès. Alors le problème, c'est que lui, il est d'origine afro-américaine. Et il ne peut donc pas déposer de brevet. C'est interdit à cette époque aux afro-américains. Donc bien sûr, l'idée de la recette se répand. Ça devient quelque chose d'assez populaire. Et il y a une date très importante qui va faire exploser le truc. C'est en 1926, lorsque Lara Scudder invente quoi ? Tout simplement le paquet.
Ah, le paquet.
Le paquet, oui. Qui va permettre aux chips de voyager, d'être conservés, de garder leur croquant. Et puis l'histoire, évidemment, va se développer. Les aromatisations, l'industrialisation, les machines pour les fabriquer, etc. Mais plutôt que d'aller acheter un bête paquet de chips
en bas
de chez vous, mon cher Mathieu...
On peut les faire soi-même.
Eh bien oui, on peut les faire soi-même. Il n'y a rien de plus simple.
Alors, il faut un peu de temps quand même.
Non, il y en a pour 2 minutes. Ah franchement, bon, vous allez me chercher des pommes de terre à chair ferme, alors des charlottes, des amandines, des pompadours, ce que vous pouvez trouver. Vous les épluchez. Vous avez... une mandoline chez vous, ou alors vous êtes très habile du couteau, mais le mieux c'est d'avoir une mandoline. Vous savez, cet appareil qui permet de trancher voilà, très 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 finement. Il faut vraiment que les chips soient très fines, 3-4 mm d'épaisseur, pas plus. De l'huile de friteuse à 200 degrés. Mais ce qui est très important, c'est qu'avant de les plonger, il faut d'abord bien les laver à l'eau, plusieurs fois,
pour enlever l'amidon.
Tout à fait,
c'est
contrairement
bizarre,
à un gratin,
le cri du cœur de deux personnes qui sont nulles en cuisine. Il y a des trucs comme ça qui rentrent. L'amidon,
il faut enlever l'amidon en rinçant les pommes de terre sous l'eau claire et en les essuyant bien dans du papier absorbant, dans un torchon. Ensuite, on les plonge, mais juste 2 ou 3 minutes dans cette huile qui est très chaude à 200 degrés. On les sort, on les égoutte, on les éponge légèrement pour enlever l'excès de gras. Et puis, on a des chips. Mais il y a une autre manière de les faire, c'est au four.
Ah oui, au four.
C'est moins croustillant, c'est un peu moins gras. C'est donc forcément un peu moins bon, mais c'est quand même intéressant. Ben là, l'idée, c'est de procéder à peu près de la même manière, à part que vous allez badigeonner vos rondelles de pommes de terre avec un petit peu d'huile, dans un four, alors pas trop chaud, à 140-150 degrés, mais très longtemps, parce qu'il faut faire évaporer l'eau pour avoir le plus de croustillant possible. Donc on va les laisser 35-40 minutes posés sur une feuille de papier sulfurisé. On les sort, il n'y a plus qu'à trouver un bon programme télé ou écouter la radio, et puis déguster les chips.
Vous mangez des chips, vous Stéphane, vous n'avez pas une tête à chips.
Mais c'est quoi une tête à chips?
Je ne sais pas, vous n'avez pas, je vous vois mal, tout à coup, entrer dans votre salon, sous les ordres de votre salon, et
chips.
Tout à coup vous dire, tiens, je m'ouvre un paquet de Vico. Je ne sais pas pourquoi, je vous imagine.
Mais non, il les fait lui-même.
Non, pas du tout.
Non, vous aimez ça?
Ça m'arrive, oui, j'adore ça.
Pour la prochaine fois, je vous offrirai
c'est
des chips.
C'est très salé, hein, malheureusement.
Ah, bah alors, les chips industrielles sont trop salées, trop grasses, et surtout, elles sont pleines de produits, en général, pas très recommandables, donc faites-les vous-même.
Vous-même,
par pitié.
Absolument, vous avez raison. Merci beaucoup, Olivier Pouls. On vous retrouve demain ici même, et tous les samedis de 11h à 12h30 autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte sur Europe 1.
Alors Stéphane, de manière assez peu démocratique, mais est-ce étonnant de votre part? Non. Vous vous êtes octroyé le dernier mot de notre émission.
Oui, parce que vous me l'avez demandé.
Bah, c'est vrai. Après plus d'un mois subissant ce diktat, véritable fait du prince, je m'insurge aujourd'hui et vous propose ceci. C'est très simple. C'est au plus populaire sur Instagram de nous deux d'avoir le dernier mot. Or moi, j'ai 7441 abonnés Stéphane. Et vous, je regarde à l'instant, 92. Ah, je voudrais pas vous humilier, mais les chiffres sont là Stéphane.
Oui, 92K. Donc en fait, j'ai 92 000 abonnés.
92 000 vous avez... Ah, K, c'est...
Oui, 80... K, ça veut dire 92 000.
Alors, dans un instant, le mot de la fin de Stéphane Bern.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Il fait partie de ces journalistes qui tournent autour depuis quelques années autour du prix Albert Londres, qui sont à ça de le décrocher. Et pour cause, Stéphane Bern est de ces journalistes pour qui l'investigation n'est pas un vain mot et qui chaque après-midi osent poser les vraies questions, quitte à déranger, quitte à choquer.
Vous êtes sûr que la cire, ça fait plus mal que l'épilateur électrique?
Mais Stéphane, chaque après-midi, votre questionnement le plus audacieux de tous, c'est d'où vient cette expression? Et aujourd'hui, particulièrement audacieuse cette question, d'où vient l'expression « à voile et à vapeur »
Oui, venez,
avec moi, Mathieu, chers auditeurs et auditrices. Je vous invite pour la Nouvelle-Orléans, sur le Mississippi.
Bon, là, ça va.
C'est là, un 1er octobre 1811, que pour la première fois, on assiste au lancement et à la navigation du premier bateau à vapeur. Bah, ça m'a donné une idée pour l'expression du jour.
Alors, moi,
à voile et à vapeur.
Moi qui suis un être prude et innocent, vous le savez, je sais ce que c'est. C'est quand un bateau peut à la fois naviguer grâce à ses voiles, mais aussi grâce à son moteur. C'est ça, tout simplement.
Pas seulement, mon petit Mathieu.
Aïe.
C'est aussi une façon de désigner les personnes qui sont attirées tantôt par ceux du sexe opposé, tantôt par ceux de leur propre sexe. Vous voyez ?
Ah oui.
Le fait d'emprunter à la marine cette expression n'est pas totalement anodine, puisque les marins partaient pour de longs mois en mer, entourés exclusivement d'hommes. Ils changeaient d'inclinaison à bord, puis revenaient à leurs premières amours une fois revenus au port. Le choix des mots peut aussi s'expliquer par le mât de la voile, symbole éminemment masculin, et les vapeurs féminines qui, de façon caricaturale, évoquent parfois l'hystérie, vous savez.
Oui, c'est notre époque.
Absolument, ça n'existe plus, ces choses-là. En Espagne, on préfère l'expression « fonctionnaire à gaz et électricité ».
Ça, j'adore ça.
Comprenez, à gaz et à électricité. En argot américain, on parle d'ACDC.
Ah.
Comprenez, on aime à la fois le courant alternatif et le courant continu. Bon, l'important, comme vous le savez, c'est d'éviter la panne.
C'est sûr.
Quoi qu'il en soit, que l'on soit à voile ou à vapeur, n'oublions pas le temps des galères romaines. À cette époque, on sortait les rames.
Historiquement vôtre, touche à sa fin encore un merveilleux périple à bord de la Berne Mobile. Ce véhicule hybride au design élancé, au levier de vitesse fièrement. Bref, on a passé une bonne après-midi autour de ces figures de l'histoire qui ont eu le culot de dire non. Stéphane, qu'est-ce qui vous a le plus surpris aujourd'hui ?
Écoutez, j'ai tout aimé, j'ai beaucoup aimé, surtout nos invités. Monsieur Ovas qui nous parle de Victor Hugo et Nicole Bacharan qui nous parle de ce qui se passe dans la société américaine.
C'est peut-être une émission qui aura donné envie d'acheter des livres pour mieux connaître les combats de Victor Hugo.
Moi j'adore acheter des livres d'histoire. Non, j'ai très envie de lire l'histoire des Noirs américains.
16h, 18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Vous écoutez toujours Historiquement Vôtre. Où ça, Stéphane ?
Sur Europe 1. Je sais plus où on est.
Oui, mon Stéphane fatigue un peu. C'est l'heure de rendre l'antenne. Mais par chance, on se retrouve demain.
Oui, Mathieu. Une fois de plus, trois personnages au programme. Trois personnages que les siècles séparent, mais qu'une passion relie.
Demain, danse avec les stars, danse avec l'histoire.
Louis XIV, Auguste Rodin et John Travolta. Ils avaient tous le rythme dans la peau.
Oui, mais entre nous, chers auditeurs, pas autant que Stéphane. Comment vous décrire Stéphane sur le dance floor ? C'est
non,
simple.
Il danse comme il chante.
Le téléphone pleure.
Et là, vous vous dites vivement demain.
Et oui, à demain, Mathieu, j'arriverai en moonwalk.
Essayez déjà d'arriver entier.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.